Chapitre 14. Une bruine discontinue. Depuis plusieurs heures imbibait la végétation, les vêtements, et commençait à remplir les gouttières, les caniveaux, jusqu'à former des flaques dans chaque nid de poule ou en fractuosité sur les bas-côtés. La voiture filait à travers la banlieue sud-ouest de Paris. Quartier chic, discret. Des vieux murs de pierre ou des grilles d'acier derrière lesquelles poussaient de hauts arbres. On y distinguait à peine les toits de manoirs, demeures de famille et villas plus modernes. Banlieue cossue qui vivait repliée sur elle-même. Tout y était caché, le centre-ville en retrait des axes principaux de circulation, les belles maisons loin dans leur parc. Même la population semblait dissimulée. Il n'y avait presque personne dans les rues. Alexis conduisait vite, le gyrophare en action. Ludivine actionnant la sirène à chaque intersection. Ils arrivaient à Louveciennes. Leur cœur commençait à se serrer au fond de leur poitrine. Ils avaient les mains moites. L'un comme l'autre appréhendait ce qui allait suivre. Il n'y avait aucune forme d'excitation. Aucun espoir à l'idée de découvrir peut-être de nouveaux indices pouvant conduire aux fantômes. Pas dans ces circonstances. Le portail était ouvert. Deux policiers en faction devant pour réguler le passage. Par chance, aucun groupe de badauds ne s'était amassé sur les trottoirs pour essayer de distinguer quelque chose. La rue était déserte. La Peugeot s'avança lentement sur le pavé du jardin, en direction de la maison d'architecte, blanc et gris. Des bardeaux de bois la recouvraient presque entièrement. Moderne et spacieuse, elle avait tout de la bâtisse familiale typiquement américaine. Trois véhicules de police, cinq autres de la gendarmerie, dans la fourgonnette de la cellule d'investigation criminelle, la CIC, ainsi que la voiture du médecin étaient garées devant le garage. Les essuie-glaces grinçaient à chaque passage, lavant la vitre du flou qui cherchait à tout prix à masquer cet endroit, comme s'il ne devait pas être. Magali, la brunette au carré, attendait sous le porche, les bras croisés sur la poitrine. Elle, d'habitude si dynamique et joviale, avait le visage fermé. Lorsque Alexis et Ludivine approchèrent, elle ne s'écarta pas, bloquant l'accès à la maison. « Vous n'avez pas encore déjeuné, j'espère ?»« C'est à ce point-là, » fit Alexis. Les flics locaux ont eu le bon réflexe. Dès qu'ils ont vu le carnage, ils ont compris que c'était du lourd. Ils ont prévenu la PJ de Versailles qui, en voyant les corps et surtout le mode opératoire, a tout de suite pensé à nous. Vu la similitude des faits, le proc de Versailles nous a saisis. Combien de temps depuis la découverte des corps? La femme de ménage les a trouvés vers 9h ce matin. Nos services ont été contactés moins de 2 heures après. Combien de victimes? 3. Toute la famille. Les techniciens en identification criminelle, les tics ont fini le boulot? Oui, ils refont juste quelques photos supplémentaires, mais le terrain est libre. Le co-crime est là. Le co-crime, coordinateur des opérations de criminalistique, était l'expert qui faisait la jonction entre les techniciens en identification criminelle, les différents laboratoires et résultats d'expertise, et les enquêteurs à proprement parler. Sur une scène de crime, il était le guide et l'interprète. Magali s'écarta pour les laisser passer. L'intérieur était vaste, aménagé avec beaucoup de goût. Tapis molletonnés sur un parquet en wengé, murs de couleur pastel, vert ou camel, les boiseries, moulures et huisseries peintes d'un blanc immaculé. Tout était soigné, meubles en bois exotique, décorations tribales témoignant de nombreux voyages en Afrique et en Asie, et des cadres sur toutes les parois, photos de vacances, du couple, de la fille, à toutes les occasions possibles. Chaque vitre était brisée, sur chaque photo, et il y en avait des dizaines. Alexis nota également la présence de romans un peu partout sur des étagères, dans des niches, des romans policiers exclusivement. Magali désigna un guéridon renversé dans le hall, ainsi qu'un porte-revue dont le contenu s'était déversé jusqu'au pied des marches. Les couvertures de Elle, Biba, Marie-Claire Maison et Les années laser formaient comme un message dramatique sur ce qui s'était passé ici, quelques heures plus tôt. Un marqueur jaune des techniciens en identification criminelle avec le chiffre 3 était posé sur le tapis, près d'une demi-douzaine de taches de couleur rouille, qui contrastaient avec la nuance crème de la laine. « On pense que la femme a été attaquée ici », indiqua Magali. « Traces de lutte et un peu de sang ». Et puis elle a été traînée vers l'étage. Il y a des éraflures à plusieurs endroits sur les marches, et le tic vient de me confirmer qu'elle a des échardes de parquet sous les ongles.
Son corps est où ? Demanda Ludivine.
Au premier, dans la chambre.
Pourquoi le verre de tous les cadres est brisé ? Questionna Alexis.
Ça paraît trop méthodique pour être une conséquence d'un affrontement.
C'est comme ça dans toute la maison.
Pas une photo n'est intacte, fit une voix étrangement décontractée dans leur dos.
Philippe Nicolas, le co-crime, s'approcha pour les saluer. Le cheveu noir luisant de gel, des bouclettes rabattues en arrière, veste en cuir de qualité, pull en cachemire, Ray-Ban glissé par une branche dans l'extrémité en V du col, et jean moulant. Philippe Nicolas était aussi à l'aise qu'au bar d'une plage un soir d'été pour draguer.
J'en ai vu des scènes moches, mais celle-ci vient d'entrer dans mon panthéon personnel, prévint-il en abandonnant toute joie déplacée. La suite est par là. Il les entraîna vers la cuisine où crépitait le flash d'un appareil photo. Deux techniciens en combinaison bleue effectuaient une nouvelle série de clichés complémentaires. Ils progressaient avec attention, comme s'ils circulaient sur un terrain miné, vérifiant où ils posaient les pieds à chaque pas, touchant le moins possible leur environnement. Quatre projecteurs sur trépied encadraient la pièce pour la baigner d'une clarté blanche terrible, de celle qui n'épargne rien, qui découvre tout, qui ne consent à aucune pudeur, une vérité médicale, technique, cruelle. Les deux tics opéraient autour d'une mare rouge qui recouvrait le carrelage sur plus de 3 mètres carrés. Une mare au milieu de laquelle se reflétait la lumière, comme dans un miroir gâté à l'extrême. Ils travaillaient en évitant soigneusement de trop s'approcher de l'homme qui était allongé sur le dos, la gorge ouverte, luisante comme une entrecôte tout juste sortie de sa barquette et fendue en deux. Le sang avait séché sur la peau, et au sol, il paraissait poisseux, presque collant, d'une couleur foncée, un bordeaux sombre, d'autant plus inquiétant qu'il était éclairé avec puissance.
« Le père de famille », présenta Philippe Nicolas, en tendant le bras.
« Le scénario le plus probable est qu'il a été tué en premier,
certainement par surprise.
Aucune trace de lutte, pas de sévices, on s'est débarrassé de lui comme d'un moustique gênant lors d'une bonne soirée entre amis. Ses paupières n'étaient pas totalement refermées, et depuis le seuil de la cuisine, Alexis pouvait deviner ses pupilles qui brillaient légèrement sous l'éclairage intense des projecteurs. Des yeux qui regardaient, mais qui ne voyaient plus. Il ne servirait plus jamais. Il s'était arrêté sur le visage de la mort, figé pour toujours sur celui qui allait briser ses existences. L'homme avait les doigts recroquevillés. Il s'était accroché à la vie. Il avait refusé de partir. Il avait tout fait pour chasser le néant. Pourtant, à mesure que son sang le fuyait, il avait dû comprendre que c'était irrémédiable. Il luttait contre une chimère. La vie s'écoule hors d'un corps comme une brume que nul ne peut retenir. Et la sienne s'était peu à peu vaporisée dans cette cuisine. Une nuit d'automne, tandis que sa femme et sa fille se faisaient massacrer juste à côté. Alexis savait qu'en cas d'hémorragie, à mesure que le sang s'écoule, la chaleur disparaît dans le corps et le froid se fait ressentir de plus en plus fort. Cet homme était mort sur son carrelage en grelottant. Comprenant que cette morsure qui s'enfonçait de plus en plus profondément dans sa chair était irréversible, que c'était la mâchoire du vide qui se refermait sur lui, tandis qu'il agonisait. Ludivine prit la manche de son collègue et le tira en arrière. Il réalisa alors que le co-crime était déjà reparti vers l'étage.
« Ça va ?» fit la petite blonde.
Alexis hocha la tête.
« J'y arrive jamais à couper complètement le fil avec l'empathie, » avoua-t-il tout bas.
« Je sais. » Je commence à te connaître. Mais c'est aussi pour ça que tu sens bien les choses sur les scènes de crime, que tu parviens à te mettre à la place des victimes, du coupable, et que tu débusques des pistes.
La main de Ludivine attrapa la sienne. Elle était chaude, et elle le tracta vers les escaliers. À l'étage régnait encore plus d'agitation. Il y avait des lumières puissantes, qui irradiaient depuis 2 pièces opposées, et des ombres en pagaille, qui se mêlaient aux voix, au crépitement des flashs et à celui des radios.
Le médecin qui a certifié les décès a remarqué quelque chose de particulier sur les cadavres,
sans qu'il eût divine en lâchant son partenaire.
Vu leur état, il n'a rien dit d'autre que « merde », répondit Magali.
On a une idée malgré tout de la chronologie ? Demanda Alexis.
La femme de ménage les a trouvés à 9 heures, exposa le co-crime. Et les corps n'étaient pas froids quand la PJ a débarqué.
J'ai regardé le portable de l'adolescente.
Dernier texto envoyé à 23h47 hier soir, tout allait bien.
C'est donc arrivé dans la nuit. Votre collègue, le criminau chauve, pense que ça s'est produit tard.
Michaelis est là ?
Magali tendit la main vers une chambre.
Avec Franck et Ben.
Le groupe de Magali était au complet. C'était un trio efficace, polyvalent, constitué de 3 générations de gendarmes avec chacune ses compétences et ses forces. Alexis aimait travailler avec eux. Ils marchèrent jusqu'au seuil de la suite parentale occupée par 2 personnes.
Franck, le quinquagénaire moustachu, était en train de prendre des notes tout en observant la scène de crime. Plus loin, au-dessus du lit, la silhouette chauve de Michaelis détaillait chaque parcelle, ses billes grises glissant d'un côté à l'autre, d'un indice à l'autre, pendant que le cerveau cherchait à donner du sens à tout ce qu'il voyait.
C'était une vaste pièce meublée avec goût. Des tons chauds, murs ocre, coffres en velours, des coussins bruns partout. Et plusieurs étagères remplies de livres. Encore des romans policiers.
Il y en avait également sur une des tables de chevet, près d'une bouteille d'eau et d'un coffret à bijoux.
Madame était fervente lectrice de polar, comprit Alexis. La mère de famille était là, allongée sur un couvre-lit rouge. Rouge de tout le sang qu'il avait bu.
Elle gisait nue, la face enfoncée dans les couvertures, les chevilles attachées par des liens en plastique à la structure du lit. La commissure d'une profonde blessure à la gorge apparaissait entre 2 plis du dessus de lit. Elle avait été égorgée comme son mari. Gravé profondément dans la peau, le symbole allait d'une omoplate à l'autre. Étoile E, le radical indo-européen. L'origine des origines du mot. Gravé sur une morte. Plus qu'une signature, un appel au rassemblement, à l'union. Les iris gris atterrirent sur Alexis.
Je vous l'avais dit. « Ce type est sûr de lui, » dit Michaelis de sa voix grave et posée. « Il vient de passer à l'étape supérieure. Toute une famille. »
Les projecteurs des techniciens étaient encore en place, ainsi qu'une 12aine de marqueurs d'indices jaunes et noirs. Alexis pénétra dans la suite, en prenant soin de ne pas marcher dans une tache de sang.
« Vous aviez raison aussi sur le passage à l'acte imminent. »
Le jeune gendarme observait son environnement avec attention, cherchant des signes, pouvant lui expliquer comment s'étaient déroulés les meurtres. Objets renversés ou brisés, vêtements déchirés sur le sol ou griffures sur les murs. Mais il ne vit rien d'emblée, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un lien plastique vide, enroulé autour d'un barreau de la tête de lit. Il y en avait un autre un peu plus loin, manifestement pour entraver la victime au niveau des poignets.
Elle est parvenue à sortir ses mains ?
Apparemment.
Les poignets étaient huméfiés, et plusieurs entailles profondes lui ouvraient le bas des mains. Elle s'était arraché la peau tout autour, jusqu'à se mettre les chairs à vif. Les liens étaient des serflex, ces nœuds coulants prisés par les forces de l'ordre américaine, et qu'on ne peut défaire une fois en place, sinon en les coupant avec une bonne paire de ciseaux.
« Mais elle n'a pas réussi à se libérer les chevilles, »
ajouta Michaelis.
« Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. »
Elle s'était débattue, au point de s'ouvrir tout autour de la malléole. Mais les liens aux chevilles n'avaient pas cédé.
Il y a même des écorchures d'ongles, c'est assez évident, elle s'est mutilée toute seule,
commenta le criminologue. C'est elle qui s'est fait ça aux chevilles ?
Je pense que si on lui avait laissé une heure de plus, elle se serait découpée les 2 pieds à coups d'ongles.
Vous êtes sérieux ? Mais pourquoi ?
On va y venir.
Il l'a égorgée ?
Presque jusqu'à l'os. Pas besoin du légiste pour le confirmer. Il suffit de s'approcher.
Alexis préféra se tenir à distance. Il ne voyait pas ce que l'observation d'une gorge béante pouvait lui apporter pour l'enquête. Déjà, l'odeur du sang commençait à lui tourner la tête. Un parfum âcre, celui du fer, qu'il avait déjà respiré de nombreuses fois et qui invariablement le renvoyait au même souvenir, celui d'un abattoir qu'il avait visité petit. On lui avait souvent répété que les odeurs se fixaient avec des souvenirs, et qu'elle se rappelait à nous, à notre mémoire, avec ses images lointaines, par association. C'était entrelacé avec ses sens, le tatouage de l'expérience sur l'existence.
« Il l'a tasé »,
commenta le criminologue en désignant 2 petites piqûres au centre du dos, ainsi que la peau bleutée qui les entourait.
« C'est nouveau, ça ? Et d'habitude, il ne tue pas comme ça non plus. Il a été pris par le temps ?»
Michaelis secoua la tête.
Au contraire, il est venu ici pour prendre son temps.
Elle n'a pas été torturée comme les victimes précédentes, fit remarquer Ludivine depuis le seuil. Est-on sûr que c'est bien lui, le fantôme ?
Frank leva enfin son nez de son carnet pour préciser.
Aucune trace d'effraction. Et la femme de ménage est catégorique. C'était verrouillé quand elle est arrivée. Le tueur a pris soin de tout bien refermer derrière lui, cet enfoiré.
On ne sait pas comment il est entré ? Demanda Alexis.
Non, comme pour les deux précédentes. Claire Nourry et Nadia Sadan avaient des alarmes chez elles,
s'enquit Michaelis.
Oui, mais ce n'est pas la même compagnie, on a vérifié. Pas le même fournisseur internet non plus. À la rigueur, le fantôme a pu se faire passer pour un type de DF pour entrer. On a creusé de ce côté-là, mais aucun voisin n'a vu le moindre camion dans la journée.
Ils ont pu le manquer, ajouta Ludivine.
Michaelis répliqua aussitôt. Je doute que notre homme se soit fait passer pour un employé de quoi que ce soit un dimanche soir tard pour entrer ici. Il a une autre méthode, qui fonctionne de jour comme de nuit, week-end comme semaine. Il est bien rodé. Vous avez épluché les relevés de carte bleue? Voir si les victimes n'étaient pas passées chez un serrurier?
Ça n'a rien donné non plus, rapporta Alexis.
Il y a forcément un point commun entre elles. Un moyen pour lui de pénétrer dans leur domicile. Soit il réussit à se faire ouvrir sans éveiller la méfiance, et il récupère les clés ensuite pour partir, soit il a une méthode bien à lui que nous devons identifier rapidement.
Il ne vole pas les clés de ses victimes, corrigea Ludivine. Nous avons retrouvé les trousseaux chez chacune, et les proches confirment qu'il n'en manquait pas.
Michaelis approuva d'un air songeur.
C'est quoi le sang à vos pieds ? Demanda Alexis.
Le criminologue s'écarta. La descente de lit était maculée de taches pourpres. Le marqueur 7 était posé dessus.
Les tiques ont effectué un prélèvement, expliqua Philippe Nicolas. Peu probable que ce soit le sang de la victime. C'est du côté opposé à celui où elle se tient et il n'y a pas de marque de coulure. C'est probablement celui du tueur. Il s'est peut-être blessé pendant l'affrontement.
C'est elle qui a des échardes du parquet sous les ongles ?
Oui, le même bois que celui du rez-de-chaussée et des marches. Apparemment, il l'a neutralisée en bas avant de la traîner jusqu'ici.
Il voulait la violer sur son propre lit ?
L'index de Michaelis désigna brièvement l'entrejambe de la victime, juste devant lui.
« Je ne crois pas qu'elle ait été violée, »
dit-il sans pour autant la regarder. Son regard inquiétant se promenait davantage sur le pourtour du lit.
« Comment pouvez-vous en être sûr ?»«
Sur les victimes précédentes, il en a mis partout. C'est un jouisseur. Il se frotte contre elle, il a besoin de contact. C'est un conquérant aussi, il répand son sperme. De plus, il les torture systématiquement pendant qu'il les viole. » Pour elle, il s'est contenté de l'égorger.
Alors comment peut-on être sûr que c'est bien lui ?
Michaelis planta son regard froid dans celui du jeune gendarme.
« Je vous conseille d'aller jeter un œil dans la chambre d'en face, » dit-il. « Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'intérieur de la tête d'un tueur en série pendant qu'il passe à l'acte, vous allez être servi. » Cette fois, il ne s'est retenu sur rien. Il s'est étalé complètement dans tout ce qu'il est. Dans toute sa frénésie, sa déviance. Et vous allez comprendre pourquoi cette douce mère de famille était prête à se découper les deux chevilles avec ses propres ongles pour se libérer.
Alexis avala sa salive. Il commençait à imaginer le pire.
Et ça va vous plaire,
ajouta Michaelis.
Pour la première fois, il nous a laissé un message.